France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Page noire et légende dorée, l'histoire de France entre friction et fiction. Qu'est-ce que le régime du maréchal Pétain? Est-ce une parenthèse dans l'histoire de France? Un régime autoritaire? Une dictature? Il est certain, en tout cas, que c'est une malédiction pour la belle ville de Vichy dans l'Allier, une ville d'eau avec une très riche histoire qu'il ne faudrait pas résumer à l'installation pendant quelques années du maréchal Pétain, de l'État français et d'un gouvernement de collaborateurs. Oui, Vichy, c'est bien autre chose qu'une dictature. Ah, bah oui, ça y est, je l'ai dit. Cette association est terrible, associer cette ville aux pages sombres de notre histoire, si difficile à s'en libérer.
Mesdames, messieurs, vous allez entendre une proclamation de l'état-major des forces françaises de l'intérieur.
Vichy soit. Pour vous aussi, l'heure a sonné. Votre ville est libre. Les forces françaises de l'intérieur tiennent Vichy. Les consignes sont simples. L'ordre est assuré. Nous vous demandons le calme, même dans la légitime manifestation d'une joie si longtemps attendue, et l'obéissance aux autorités civiles et militaires accréditées. Le ravitaillement est assuré. La discipline la plus stricte est toutefois nécessaire. Nul ne doit prendre l'initiative de modifier ou d'entreprendre la distribution de denrées quelconques sans en avoir reçu l'ordre formel des autorités compétentes. Des ordres vous seront donnés. Obéissez à ces ordres. Chacun à sa place doit prendre part à la victoire. Ayez confiance, malgré toutes ses blessures, la France renaîtra. Vive la France.
Ah, vive la France, la libération de la ville de Vichy, le 26 août 1944. Bonjour Laurent Joly.
Bonjour.
Je le disais tout à l'heure, c'est difficile hein, de définir ce régime de Vichy. Beaucoup de choses ont été utilisées. Alors, parenthèse dans l'histoire de France, régime autoritaire. Vous dites dictature Vichy, histoire d'une dictature 1940-1944. C'est l'ouvrage que vous avez dirigé chez Talendier. Pourquoi utiliser ce mot de dictature? Ah, vous allez me dire, parce que c'en est une.
Bah oui, parce que c'en est une, et puis surtout parce que jusqu'à encore quelques années, on considérait que c'était synonyme. Régime autoritaire, dictature, on voyait pas tellement la différence. Alors, bien sûr, c'était aussi une litote, mais malgré tout, on voyait pas tellement la différence. Et aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel il y a des démocraties qui deviennent des régimes autoritaires. Et donc, rappeler ce que c'est vraiment une dictature, c'est-à-dire que ce qu'on montre, c'est que c'est pas simplement le maréchal Pétain qui en a donné des pleins pouvoirs, mais c'est aussi des pleins pouvoirs qui s'est octroyé. C'est un coup d'État, c'est une thèse qu'on affirme, un coup d'État légal qui a été accompli, puisque le 11 et 12 juillet 1940, le maréchal Pétain s'est octroyé les pleins pouvoirs et a désigné un successeur. Il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus le droit de manifester. Bref, on n'est pas dans un régime autoritaire, une démocratie qui a mal tourné, on est vraiment du jour au lendemain dans un nouveau régime qui est absolument dictatorial.
Mais une dictature, ça n'apparaît pas soudain. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans votre regard, Laurent Joly. C'est qu'il faut se mettre dans ce contexte antérieur à Vichy pour comprendre Vichy.
Tout à fait. C'est troublant de voir qu'il y a des appels à un régime plus fort. Ces mots, alors évidemment on est assez frappé de voir les similitudes avec aujourd'hui parce que c'est en gros les mêmes mots. On dit qu'il y a besoin de plus d'autorité, qu'il faut un pouvoir plus incarné et que la démocratie c'est moins efficace que des régimes qui se passent de démocratie. Donc tout ça c'est dans l'air du temps, mais ça reste très minoritaire. Le livre commence d'ailleurs par un sondage de 1934 qui est fait par un journal de droite, le Petit Journal, et les deux hommes qui arrivent en tête d'une sorte de sondage pour qui pourrait être le sauveur de la France et l'homme à poigne, c'est Pétain et c'est Laval. Mais en même temps, on voit bien que c'est pas non plus spectaculaire et que la plupart des gens, en fait, restent attachés à la démocratie, à la République. Et le sondage finit en se disant, bah, finalement, on est en 34. Hein. Les gens, les Français, ils sont attachés à la République. Donc il y a quand même quelque chose de soudain qui est lié évidemment à cette défaite traumatisante de 1940. Sans la défaite de 1940, il n'y a pas la dictature. Les forces qui étaient sous-jacentes n'étaient pas assez puissantes. C'est vraiment la revanche des minorités, Vichy.
Bénédicte Vergé-Chaignon, bonjour.
Bonjour.
Bénédicte Vergé-Chaignon, vous êtes historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, les crimes contre l'humanité, ça, c'est ce que vous venez de publier. On est sur le après, mais dans ce moment de la dictature, les Françaises, les Français savent-ils qu'ils sont en dictature? Je vous le dis d'une autre manière, une dictature ne dit jamais qu'elle est une dictature, et bien au contraire, elle dit qu'elle respecte la démocratie. Le sentiment même de vivre sous une dictature, c'est très difficile à étudier, ça.
Alors, c'est très difficile à étudier, d'autant que même une dictature a besoin de prendre le pouls de son opinion publique, voire de la ménager, de la concilier, de lui parler, de, excusez-moi l'expression, la brosser dans le sens du poil éventuellement aussi. Et il y a de la part des autorités officielles une surveillance, alors très utile pour les historiens a posteriori, mais une surveillance de l'opinion publique quand même mensuelle, hein, très très pointue. Est-ce que les gens se rendent compte qu'ils vivent dans une dictature? Je crois que la fin de la guerre, de la campagne de France, l'avènement du maréchal Pétain sont vécus dans un premier temps comme un soulagement. Et n'oublions pas, ce serait vraiment un anachronisme, que tout cela est supposé être provisoire, hein, durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc, on s'accommode plus facilement de ce qui est supposé être provisoire. On n'annonce pas aux gens qu'il n'y aura plus d'élections. On n'annonce pas aux gens que la liberté de la presse va cesser d'exister parce qu'on croit qu'on est toujours plus ou moins dans le régime de la censure de guerre. Donc il y a quelque chose de sournois dans la manière dont cette dictature survient puis s'installe.
Raphaël Sfina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant habilité au Centre de recherche de l'École de l'air et de l'espace à Salon de Provence. Vous avez écrit l'histoire du STO, le service du travail obligatoire. Dans ce que nous disons là depuis le début, il faut peut-être rappeler aussi la chronologie. Tout va très vite, hein. Ça va très très vite. C'est des histoires de mois, parfois même de jours ou de semaines. Et donc l'idée de l'analyse qui demande du temps ici n'est pas possible. Je parle pour les contemporains.
Oui, naturellement. La France est en état de choc après une défaite qui était totalement inattendue. La meilleure armée du monde supposée, principal vainqueur en 1918, est défaite en 6 semaines. Des millions de réfugiés sont sur les routes. À ce moment-là, sans pouvoir envisager toutes les conséquences, la plupart des Français vivent l'armistice comme un soulagement. Et comme un homme noyé qui se raccroche au premier vieux débris qui flotte, on se raccroche au maréchal Pétain. Naturellement, il ne faut pas imaginer que cela va durer. En 1940-1941, Pétain est peut-être acclamé. En 1942, on lui accorde déjà moins d'importance et de confiance. Il sent aussi que son programme intérieur ne rencontre que très peu d'adhésion. En 1943, il est réduit pratiquement à l'état de potiche par Pierre Laval, qui le conserve uniquement parce que sinon personne n'aurait envie d'obéir à Laval tout seul. Et en 1944, il n'existe pratiquement plus. Et on retrouve la même chose dans toutes les étapes. Tout peut effectivement changer de semaine en semaine, parfois même de jour en jour ou d'heure en heure. Et pour le service du travail obligatoire que j'ai étudié, c'est très net aussi. Être réquisitionné en octobre 1942 ou en mars 1943 n'a plus rien à voir avec l'être en août 1943 ou en octobre, quand plus personne n'accepte d'obéir.
Laurent Joly, dans Vichy, histoire d'une dictature que vous avez dirigée. D'ailleurs, la construction de l'ouvrage est chronologique. Il y a ces deux temps. Parce que notre histoire, elle dure 4 ans, 1940-1944. Vous venez de nous dire que non, en réalité, il faut porter un regard beaucoup plus vaste. Mais sur ces 4 ans-là, les deux premières années se différencient des deux suivantes. C'est faire de l'histoire aussi, contextualiser tout le temps.
Oui, on a tenu à faire un récit qui soit chronologique, qui se lise comme un récit. Et établir une borne à l'intérieur, c'était pas si aisé, et la plus évidente, c'est le retour de Laval en avril 1942, parce que là, le choix de la collaboration à outrance est acté, et il y a ce qui va suivre, c'est-à-dire la politique criminelle de l'été 42, les livraisons de juifs étrangers et de leurs enfants qui étaient français pour la plupart d'entre eux, et cette politique-là, elle est évidemment déterminée par ce moment, ce dernier sursaut, cette dernière carte qu'abat le maréchal Pétain dans un contexte où toutes les autres cartes ont échoué. Ils ont tenté en 1941, et ça c'est l'un des apports du livre, parce qu'on est toujours sidéré de voir de découvrir à quel point Vichy a joué la carte de la collaboration pendant 3 ans. Et en 41, c'est la collaboration militaire, c'est le chapitre de Bernard Cossagliola, et qui montre qu'en fait Vichy attend une entente politique. Cette entente politique ne vient pas, les Allemands ne veulent pas l'accorder. Et le retour de Laval en avril 1942, c'est vraiment la carte de la dernière chance, un moment où Vichy n'a plus rien à monnayer. Et ce que Vichy va monnayer, eh ben, ce sont les Juifs, et puis ce sont après les travailleurs, avec cette découverte grâce à Raphaël, qui est que ça marche, et que les taux de réquisition sont de 100% en janvier, 100% en février, 100% en mars, et encore 80% en juin 1943, et avec un Pierre Laval qui fait à la radio des déclarations jusqu'au boutiste, antisémites, anti-américaines. Donc, voilà, c'est l'une des thèses du livre, la collaboration, ça a marché jusqu'en juin 43. Vous voyez, c'est un peu la rupture, même si on a utilisé la rupture classique d'avril 42.
Raphaël Spina, sur ce STO qui fonctionne, donc.
Oui, tout à fait, et c'est le meilleur taux de réquisition d'Europe occidentale. Initialement, la plupart des ouvriers réquisitionnés ne savent pas quoi faire, n'ont pas d'alternative morale ou matérielle, et on se laisse porter par le flot, et puis le régime joue les rancœurs sociales. Partez donc, pour trois ouvriers spécialistes qui partiront, il y aura un prisonnier paysan qui reviendra, les paysans voulant beaucoup aux ouvriers qui le leur rendent bien, parce que les ouvriers ont souvent été maintenus à l'arrière dans les usines, les paysans sont la majorité des troupes et des prisonniers, eh bien ça marche, ça empoisonne les relations sociales, et pourquoi mon fils ou mon frère ou mon mari partirait-il et pas le vôtre? Et pendant des mois, on ne sait pas très bien quelle solution trouver. Quand le maquis commence à émerger au printemps 1943, ce n'est encore que quelques milliers de personnes, et d'ailleurs les trois quarts des réfractaires vont d'abord se réfugier dans des fermes, ou bien ils restent à domicile, c'est plus simple. Et ce n'est qu'à l'été 1943 qu'on voit une rupture complète dans l'obéissance. Outre que la résistance a réussi à développer des parades, brusquement la société n'a plus envie d'obéir, arrive à saturation, et même le régime finit par dire « c'est plus intelligent de les laisser travailler sur place pour l'Allemagne que de les forcer à partir en Allemagne ». Et les Allemands acceptent cette solution de rechange. Mais effectivement, on ne comprend rien à la chronologie du STO si on ne regarde pas clairement à quel moment une personne est réquisitionnée.
Pierre Laval, en juin 1942.
La radiodiffusion nationale vous parle.
Je veux vous parler avec simplicité et avec une grande franchise. Le chancelier Hitler, et je l'en remercie, vient de décider la libération d'un nombre important de prisonniers agriculteurs qui pourront revenir en France dès votre arrivée en Allemagne. Les hommes de nos champs et ceux de nos usines vont sentir leur fraternité. La femme qui verra son mari revenir éprouvera une émotion pleine de reconnaissance pour les inconnus qui, en s'en allant librement là-bas, pourront faire rentrer nos prisonniers ici.
C'était les soldats pendant la guerre qui exposaient leur vie pour protéger le labeur des ouvriers. Aujourd'hui, par une de ces péripéties émouvantes qu'amènent les grands drames, ce sont les ouvriers qui peuvent rendre aux combattants le bien qu'ils ont reçu d'eux. C'est la relève qui commence.
Laurent Joly, quand on entend un son comme celui-là, nous avons notre connaissance de qui est Pierre Laval. C'est un des grands dangers de l'histoire en général, et particulièrement de cette période-là, réussir à se projeter dans le moment, parce que ce discours est très construit, très rassurant. Et c'est bien difficile pour nous de ne pas avoir l'étiquette sachant qui est Pierre Laval. Ils ont réussi à convaincre, parce que dans Vichy, Histoire d'une dictature, vous montrez le fonctionnement de la dictature, c'est toujours la question, c'est... Comment ça a pu prendre? Comment les gens ne l'ont pas vu? Alors, le contexte est très particulier, on sait bien qu'il y a l'occupation, mais la dénonciation même de la dictature peut être difficile. Moi, je me projette et je me dis, je suis un Français de 1942 et j'entends ce discours. Il est construit, il est cohérent.
Alors, sauf que, si je dis pas une bêtise, mais Bénédicte va me contredire peut-être, il me semble que c'est 14 juin.
Oui,
c'est
oui, lui. Oui.
Donc, c'est dans ce même discours que... Ah pardon, 22 juin, oui, 22 juin, tu as raison.
Exprès le jour de l'anniversaire de l'attaque de l'Union soviétique, Laval ne laisse rien au hasard.
Et c'est pas le jour de « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ».
Si, bien sûr.
Donc voilà, donc il y a ces mots « Je souhaite la victoire de l'Allemagne », et c'est très bien raconté dans le chapitre de Renaud Meltz. C'est-à-dire que Laval, il veut annoncer, il veut vendre son truc. La relève, qui est une escroquerie, sans dire clairement que ça va être 3-1. Et en fait, il y a cette phrase. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites. C'est-à-dire que si on veut faire passer une politique... Il faut éviter des phrases qui vont choquer l'opinion publique. Et là, il y a une phrase qui va choquer l'opinion publique, c'est qu'on a complètement oublié tout le reste de ce discours, effectivement très construit, hyper préparé. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, ce serait la victoire du bolchevisme. Et avec cette phrase, Laval se croyait très habile et pensait que les Allemands, du coup, auraient moins d'exigences en matière de livraison de main-d'œuvre. C'est l'inverse qui va se passer. Ils vont avoir encore plus d'exigences et il va totalement et définitivement s'aliéner l'opinion publique. Et l'une des thèses aussi qu'on développe dans le livre, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à l'été 42, le soulèvement de l'opinion publique, c'est quasiment concomitant lié aux rafles anti-juives, si on n'a pas en tête que l'opinion a été profondément révulsée par ce propos de Laval et que le Vichy a vraiment perdu l'opinion en ce moment-là.
Si je puis ajouter, Pierre Laval est quelqu'un qui se moque ouvertement de l'opinion publique. Ça ne l'intéresse pas d'avoir le soutien de l'opinion publique, même pour des raisons politiques. On s'en rend compte à travers les mémoires de ses ministres et d'autres. Il ne se soucie pas des réactions d'opinion, ça ne l'intéresse pas. Il le dit à Paul Morand, qui a édité Bénédicte Verdier-Chaignon, l'opinion, ça ne compte pas, je m'en fiche. On constate aussi que, effectivement, à l'été 42... la relève suscite encore plus de protestations et de manifestations et de refus que d'adhésion, encore plus quand elle va devenir obligatoire, donc c'est un STO qui ne dit pas encore son nom, mais confusion dans l'opinion publique, on croit que les rafles de juifs, ça sert à compenser les faibles départs d'ouvriers pour l'Allemagne et que c'est des répétitions générales en vue des rafles d'ouvriers. Moralité, la leçon du Veldiv, c'est qu'il faut que les ouvriers fassent attention à ne pas subir le même sort, ce qui montre une complète inconscience de la réalité, même si certains commençaient à se douter que la destination des juifs, c'était la mort et pas simplement le travail.
Bénédicte Verdier-Chaignon, vous connaissez si bien les Français dans la guerre, je reprends le titre d'un de vos ouvrages, et puis aussi l'après-guerre, c'est-à-dire les procès. Tout ce que nous évoquons là a été mis à plat à un moment, au lendemain de la guerre, mais le travail de l'historienne, de l'historien, nous permet de saisir la complexité du fonctionnement de ce qu'a été le régime du maréchal Pétain, ses rouages, qui, au sortir même de la guerre, n'intéressait peut-être pas tant que ça, c'était pas ça la priorité, et puis c'est complexe à saisir.
Oui, c'est très complexe, et je dois avouer que les Français de 1944 au 1945, à l'heure de l'épuration et des procès, ils ont l'impression, en fait, qu'on va simplement constater un flagrant délit. Au fond, il n'y a pas besoin d'un gros dossier d'instruction. Il y a belle lurette quand Laval est condamné en octobre 1945 que les Français se sont fait une opinion sur son cas et ils ne comprendraient même pas qu'il ne soit pas condamné. Il se dispute avec Darnan le titre de l'homme le plus haï de France, justement depuis la relève, le STO, je souhaite la victoire de l'Allemagne. Heureusement pour nous, la justice, la Haute Cour de justice en l'occurrence, ont quand même recueilli les archives de Vichy, mené des interrogatoires, dressé des procès-verbaux et constitué d'énormes dossiers d'instruction. Je dis heureusement pour nous, historiens, heureusement pour ceux qui sont curieux de l'histoire, parce que ce que les contemporains ont un peu négligé, nous en faisons notre miel.
Laurent Joly, question source, justement, au moment de publier cet ouvrage autour de Vichy, l'histoire d'une dictature, il y a, le temps a passé, de nouvelles sources qui ont pu être étudiées et alimenter cette réflexion sur un objet, et on le rappelle, complexe. Hein. Comme vous le disiez, Bénédicte, au sortir de la guerre, on se disait, voilà ce que c'était. Non, on ne le savait pas, on ne l'avait pas compris. Toutes ces sources nouvelles aident à comprendre mieux Vichy.
Absolument, et à se faire une idée qui est plus nuancée en fait que le tableau antérieur, où on voit en fait toutes les gammes d'engagement, de responsabilité, et finalement le tableau qui se dégage, si je vais le résumer à grands traits, ce serait qu'aujourd'hui les spécialistes sont peut-être encore plus sévères que leurs prédécesseurs sur la politique de collaboration menée par les plus hauts dirigeants, Laval, Darlan, Pétain. Plus on creuse, et il y a eu des biographies remarquables qui sont publiées ces dernières années, plus on creuse la personnalité de ces dirigeants et ce qu'ils ont fait, plus c'est accablant, en fait. Et à l'inverse, plus on creuse les intermédiaires, la bureaucratie, les gens qui étaient en place, plus on voit pratiquement comme une zone grise au cœur même de l'État qui a parfois tempéré avec des gens qui se sont posés des cas de conscience. Même les rafles de l'été 1942, on se rend compte qu'elles ont clivé au sein même du gouvernement, qu'il y a une partie des gens qui ont compris qui se passait une politique criminelle. Je pense au directeur du cabinet civil de Pétain, Lavagne, que Bénédicte connaît bien également, et sur lequel on a des sources inédites. Ce qu'il écrit à ce moment-là est tout à fait accablant. Il y a la conscience d'un crime. Il y a des policiers qui n'ont pas arrêté des juifs. Et il y a une opinion publique qui est beaucoup plus contrastée aussi. Et donc, c'est ces nuances, c'est ces couleurs qu'on peut mettre aujourd'hui encore plus en lumière, parce qu'on a ces sources nouvelles de l'épuration à tous les niveaux, mais qu'on a aussi des témoignages extraordinaires qui sont apparus ces dernières années. Le livre est rythmé par 5 grands témoins qui sont des témoignages authentiques et qui montrent vraiment les pulsations de l'opinion entre 40 et 44.
Dans cette réflexion que nous avons, il y a tous ces témoignages, bien sûr, nous l'entendons bien. Raphaël Spina, il n'y a pas que les témoignages. Par exemple, pour étudier le STO, le retour aux archives, mais ça, là aussi, c'est la démarche saine et pure de l'historienne et de l'historien, permet d'évoquer ces chiffres que vous nous donniez tout à l'heure, hein, Laurent Joly, pour montrer combien cela a été efficace. C'est-à-dire que les archives éclairent Vichy comme si, je ne peux pas dire que ça n'avait jamais été fait, ça a été fait, mais nous sommes à un moment où on ressent un renouveau de la manière d'étudier cette période.
Oui, bien sûr, à travers les archives, à travers les publications aussi de témoignages inédits, que ce soit le journal de Paul Morand édité par Bénédicte Vergès-Chaignon, que ce soit celui de Maurice Garçon édité par Les Belles Lettres, qui font partie des 5 témoins qui rythment comme une symphonie ce livre, et également voir comment l'opinion publique a réagi pas à pas aux différentes étapes du STO, alors que jusque-là, on se contentait un peu de dire, eh bien, ça fait basculer l'opinion, ça accélère son détachement déjà entamé du régime de Vichy. Oui, mais pas à pas, au fil des mois, que se passe-t-il? Par quelle grève, manifestation, ou au contraire, accommodement, acceptation, répond la société. Également, ce que j'ai baptisé la refusance, c'est-à-dire qu'on ne devient pas réfractaire et on n'entre pas en clandestinité, mais on se fait faire un faux certificat médical, on entre dans des emplois protégés, on entre dans la police parfois, dans les pompiers, ou pire, dans la milice. On se débrouille pour se soustraire au STO sans transgresser le tabou de l'illégalité. Et on arrive comme ça à un tableau plus précis de la société des années sombres. Et puis enfin, bien sûr, beaucoup de nouveaux travaux, la biographie de Pierre Laval par Renaud Mel, celle de Pétain par Bénédicte Vergès-Chaignon, celle de Darlan ou de Jacques-Benoît Méchain par Bernard Costagnola, ça éclaire quand même beaucoup de choses et les décisions d'en haut permettent de comprendre les réactions d'en bas.
Et Laurent Joly, là, avec cet ouvrage, vous avez ici une lecture du régime de Vichy, de son fonctionnement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite bande, pour utiliser une expression rapide, ce sont que quelques-uns qui ont, pendant quelques temps, dirigé tout cela? Est-ce que on est sur un tout petit groupe qui a réussi à mettre en place un système qui a eu des conséquences sur la vie, sur l'existence de tant et tant de personnes?
Il y a de ça. C'est vrai que, par exemple, le rôle personnel de Pierre Laval dans la naissance même de Vichy comme pouvoir et comme système, c'est la volonté d'un seul homme. Pétain, il n'avait pas besoin d'une dictature, en fait. Pétain, il avait les suffrages de l'opinion, il était déjà président du Conseil, et le rôle direct d'un homme qui a monté un coup, ça c'est absolument extraordinaire, comment un homme seul arrive comme ça, dans une situation exceptionnelle, à entraîner les autres, qui n'ont pas tellement envie, qui l'aiment pas tellement, mais qui le font parce que, voilà, il y a la figure de Pétain et il en joue et on fait naître un nouveau système. Et c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où on voit l'impact de la psychologie des dirigeants. Quand on voit Trump, quand on voit même chez nous Macron, on voit bien qu'un seul homme peut décider et entraîner des choses. Et alors évidemment, il faut évidemment qu'il y ait des conditions, c'est évidemment, c'est pas un homme qui décide et qui, mais il y a le reste et ça joue évidemment beaucoup, mais je pense que jusqu'à présent, jusqu'aux dernières biographies qui sont parues, et on intègre tout ça dans le livre, on sous-estimait un petit peu le poids de la personnalité, et même parfois, Bernard Costagnola insiste beaucoup là-dessus, des travers psychologiques, notamment de Darlan, c'est absolument, et de Benoît Méchain, quand on voit ce personnage, Benoît Méchain, qui est complètement illuminé, qui pense qu'il va être l'artisan d'une entente franco-allemande et qui arrive presque à convaincre Pétain en jouant de ses peurs parce que Pétain, il a 85 ans, on peut facilement l'impressionner. On se dit qu'on est passé à peu dans le renversement des alliances. Et ça, c'est le rôle d'un individu qui, à un moment donné, se retrouve, parce que c'est un système de dictature, avec un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir.
Bénédicte Vergès-Chaignon, dans cette histoire-là, sur un temps long, la France aussi est baignée par ce mythe du sauveur, l'idée que quelqu'un va surgir, et de Napoléon, et puis par la suite, sans doute aussi de Gaulle, qui rentre dans cette histoire-là. Nous avons, à ce moment-là, Pétain, le sauveur, mais pas seulement Pétain.
Alors, Pétain, c'est le sauveur qui ne surgit pas, hein. C'est le sauveur qui vient de loin, puisque pour le coup, il est un sauveur de 1916, voilà, qui a capitalisé sur le respect, l'admiration, l'affection qui est due au plus humain des chefs, au vainqueur de Verdun, au maréchal de France, voilà, dont les Français estiment en 1940 que, bien entendu, intrinsèquement, il est le défenseur de l'intérêt national et il ne saurait trahir, surtout face à l'Allemagne qu'il a vaincue en 1918. Donc, il y a un énorme malentendu là-dessus. Donc, c'est pas un sauveur qui surgit, c'est un sauveur, Laurent l'a mentionné à propos du sondage, entre guillemets, de 1934, qui est sous-jacent, hein, voilà, depuis plusieurs années, mais qu'on est néanmoins très heureux de trouver. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fait irruption dans l'histoire, c'est presque comme si c'était naturel. Et d'ailleurs, Pétain l'a vécu ainsi, qui croit depuis des années que quand ça va mal en France, on se tourne vers lui. Et donc, il n'est pas étonné en 1940 d'être sollicité. Au contraire, il est très prêt à prendre le pouvoir qu'au fond des hommes politiques lui ont proposé, là, à nouveau, grand malentendu, lui ont proposé temporairement et que le maréchal est décidé à garder. Voilà. Tant qu'il le pourra.
Avec cette idée de temporaire hein, que l'on souligne ici, mais oui, le temporaire, faut se méfier parce que ça peut durer. Et dans cette, ben oui, nous le voyons bien. Et le maréchal Pétain peut, nous le savons, compter sur d'excellents Français.
Parmi les noms qui tenaient la vedette, certains d'entre eux se sont bien rapetissés. D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux boches, par calcul ou stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais Français, pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste afin de sauvegarder ses petits intérêts. Et ils se sont mis à grand coup de fichy au régime collaborationniste. Bien sûr maintenant ça devient gênant, car tout de même ces saletés là, quoi qu'on puisse dire, ça ne s'oublie pas. Mais à côté de cette racaille honteuse, la conscience est un billet de 1000 francs. Il y a la France, fière, digne et douloureuse. Toute la France et ses millions de braves gens. Parmi ceux-ci est une élite rude, symbole vivant des vertus du pays, qui préférant tout à la servitude, armes à la main, a pris le maquis. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, des hommes au grand cœur, sans reprocher, sans peur, qui combattent pour que notre France soit toujours à l'avant-garde de l'honneur. N'ayant simplement pour tout ralliement qu'un seul mot, rien qu'un seul résistance, étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français.
Pierre Dac, et tout ça, ça fait d'excellents Français, évidemment. C'est une parodie de la chanson de Maurice Chevalier qui porte le même titre avec tant et tant d'excellents Français. Laurent Joly, Vichy, Histoire d'une dictature, 1940-1944, que vous publiez chez Talendier avec des échos tellement contemporains. Alors, ils sont multiples, ces échos contemporains. Le premier, c'est ce débat-là surgit sans cesse et particulièrement depuis quelques années. Vous nous avez dit tout à l'heure que même au plus près du maréchal Pétain, en tout cas à Vichy, quelques-uns ont douté à un moment et se sont dit le régime devient criminel. Le débat qui est toujours là, hein, c'est est-ce que Vichy a œuvré pour sauver les Juifs? C'est pas tant la réponse là qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça revient, cette chose-là, dans le débat français aujourd'hui. À quel moment on voit surgir cette question-là?
C'est pas étonnant qu'elle ait ressurgi il y a quelques années, parce que c'est le fait que Vichy ait commis cette politique criminelle, le fait que Vichy soit à ce point devenu noir dans l'opinion publique. C'est-à-dire que le plus il y a eu de sondages sur Pétain, sur Vichy, plus la vision que les Français et les Françaises interrogées avaient de ce pouvoir était négatif. Et vous voyez que partout en Europe ou dans le monde, vous avez des alliances entre la droite et l'extrême droite. Et en France, très clairement, le passé de Vichy a totalement délégitimé l'extrême droite. Et c'est pas anodin qu'un Éric Zemmour qui plaidait pour l'union des droites se soit mis en tête de réécrire cette histoire, de ressusciter ce vieux cliché qui vient du procès Pétain. Bénédicte l'a bien montré dans son livre. C'est une invention des pétainistes, le glaive et le bouclier, et Pétain était le bouclier, De Gaulle était le glaive. C'est vraiment une invention pour se défendre devant la Haute Cour de justice et devant l'opinion française. Et c'est devenu un argument des pétainistes. Et si c'est ressorti, c'est parce qu'il s'agit de favoriser l'union des droites. Et ça pèse encore. Ce matin encore, je disais un article sur est-ce que les droites vont finir par s'unir. Et c'est peut-être ce qui va arriver si jamais il y avait une dissolution. Et ben, j'ai repéré 4 allusions à Vichy. Je veux dire, c'est tel député qui dit, alors maintenant, l'extrême droite, l'important, c'est qu'il soit plus pétainiste, qu'il soit plus antisémite. Un autre qui dit, non, c'est pas possible de faire alliance avec eux parce que c'est le passé de la collaboration. Ben voilà, ça reste hyper présent dans notre imaginaire politique.
Bénédicte Vachenion, au moment de réfléchir à l'argumentation utilisée par les avocats du maréchal Pétain, en étudiant cela, en fait, on trouve des arguments tout près utilisés a posteriori, c'est-à-dire aujourd'hui, pour se justifier, c'est-à-dire que une certaine droite et l'extrême droite reprennent ces arguments-là qui sont prêts, clés en main.
Alors, on n'est pas dans le système judiciaire américain. En France, l'accusé, il a droit à tout pour se défendre, et il peut même mentir, et ses avocats avec lui. Voilà, donc, Maître Isorni, un très célèbre, l'un des 3 avocats de Pétain, qui est celui qui prend en charge ce qui dérange le plus au moment de la plaidoirie, c'est lui qui invente les comparaisons entre pays occupés sur les chiffres de la déportation, et c'est lui qui invente l'idée que Pétain a limité les dégâts, si je puis parler aussi trivialement, donc ce qui deviendra en termes plus choisis à sauver les Juifs de France, ouvrez la parenthèse, quitte à sauver les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers et apatrides, je ferme la parenthèse. Et donc, ce qui est un argument de défense, et on comprend, voilà, au fond, qu'il soit utilisé, devient ensuite un argument pour la réhabilitation du maréchal Pétain lui-même, puis du régime de Vichy, et donc un argument idéologique, alors bon, qui a couru, je dirais, les années 50, qui était un peu tombé à la trappe, et comme Laurent l'a dit, qui revient quand l'extrême droite française essaye de se dédiaboliser et de se détacher de ce passé pétainiste.
Et face à ces évocations dans les actualités, pas seulement, hein, partout, on le voit bien, d'un passé instrumentalisé, l'historienne, l'historien surgit et tente par tous les moyens, et avec parfois énormément d'efforts, à mettre les choses au clair avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Yann Bouvier, bonjour.
Bonjour Xavier.
Vous êtes historien, vulgarisateur, et dans cette grande proposition de l'histoire, car l'histoire est partout, vous portez l'histoire sur les réseaux sociaux et avec vos ouvrages France Fiction. France Fiction, le titre est génial déjà, Histoire des idées reçues de l'histoire de France. C'est publié chez Perrin et First. Expliquez-nous comment vous trouvez le courage et l'énergie à chaque évocation dans, je vous disais, l'actualité ou les réseaux sociaux d'un fait historique tronqué, de vous dire, moi, je vais essayer d'expliquer au plus grand nombre comment ça s'est passé. Il y a de quoi être désespéré, ça n'arrête jamais.
Alors j'ai d'abord la chance de ne pas être le seul à le faire. Il y a d'autres vulgarisateurs qui s'emparent de ce combat-là, et puis des historiens et des historiennes. Je pense notamment à Monsieur Laurent Joly qui participe par ailleurs à France Fiction et qui régulièrement intervient justement sur les manipulations et les réécritures tendant à réhabiliter la figure du maréchal Pétain, comme il l'a rappelé tout à l'heure. Le courage, écoutez, il est vrai qu'on peut parfois être désespéré de voir à quelle vitesse, à l'ère des réseaux sociaux, ce genre de propos pseudo-historiques peut se répandre. Et la force, d'ailleurs, avec laquelle ses propos se déploient, ne va pas cesser d'augmenter. Je ne sais pas si vous avez vu là récemment OpenAI qui vient de sortir un nouveau modèle de génération d'images qui s'appelle Sora, extrêmement bluffant. J'ai vu récemment un petit extrait qui met en scène une confrontation entre Michael Jackson et Adolf Hitler. Alors, il est évident que c'est anachronique, mais c'est par contre terriblement bien fait d'un point de vue technique. On ne peut pas distinguer le fait qu'il s'agit là d'une invention. Les menaces sont un lot quasiment quotidien pour nous faire taire. Après, moi, je n'invente rien. Je m'appuie sur le travail des historiennes et des historiens déjà existants. C'est ce que font d'autres vulgarisateurs. Je pense à Florian Besson, notamment sur X avec son compte Âge Moyen, Actuel Moyen Âge.
Actuel Moyen Âge.
Exactement.
Nota Bene, Benjamin Nota Brio. Bene,
bien sûr,
mais non, mais André, c'est vrai etc. que ce travail-là, c'est un travail de nécessité publique et vous l'avez dit, Laurent Joly le fait, mais tout le monde, historienne, historien, le fait, que ce soit auprès de proches, que ce soit sur les réseaux sociaux, il faut le faire sans cesse. Sandrine Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure en classe préparatoire, c'est au lycée Jean Jaurès à Reims, hein, c'est ça?
C'est ça.
Dans cette volonté de clarifier les choses, il y a une difficulté, c'est que les histoires se construisent avec des mythes. Vous travaillez sur la colonisation se construit sur des mythes. Et donc, ça demande beaucoup de finesse pour expliquer les choses.
Oui, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, auprès des étudiants, c'est très important, effectivement, de revenir sur ces constructions mythologiques et sur ces fausses parts d'histoire. Et ce que disait Yann à l'instant sur le fait qu'on se fie désormais aux réseaux sociaux pour croire en l'histoire. C'est-à-dire que désormais, quand vous amenez, comme le disait Laurent Joly à l'instant, de la nuance, des palettes de couleurs, c'est-à-dire le travail de l'historien, vous n'êtes plus dans la vérité selon les gens qui l'aperçoivent, parce que précisément on est dans du manichéen. Et pour revenir à votre question, donc sur la colonisation et les décolonisations, on est dans cette construction manichéenne. L'idée que Vichy ait pu être une dictature n'empêche pas, comme le disait à l'instant ma collègue, que même dans un régime, et Laurent Joly également, même un régime démocratique ait pu avoir ou et encore des pratiques qui s'approchent de régimes autoritaires. Et en l'occurrence, la République française, elle a produit énormément de propagande, une propagande organisée avec des structures étatiques pensées pour cette propagande. Et la mythologie, elle est celle-ci, c'est que la colonisation, il fallait la justifier, il fallait justifier qu'on envoie des hommes mourir sur le terrain, il fallait justifier qu'on y consacre un peu d'argent, et il fallait justifier qu'on vende cette idée de plus grande France. Et pour le coup, on a vendu cette idée de mission civilisatrice. Et donc, tout le discours colonial et toutes les strates s'imbriquent jusqu'aux décolonisations expliquent qu'on va civiliser, excusez-moi le terme, mais c'était les termes de la propagande du sauvage, qu'on va leur apporter de la civilisation, du progrès avec des ponts, des routes, des aéroports, et que ça, tout cela fait la plus grande France. Ce qui explique les difficultés au moment des décolonisations d'appréhender cette histoire des décolonisations.
Yann Bouvier, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir se plonger dans toutes les périodes de l'histoire. C'est-à-dire, nous sentons bien qu'il n'y a pas un moment qui est épargné par la récupération de l'Antiquité à nos jours. Et d'ailleurs, c'est pratique, parce que ça permet de revisiter notre histoire en passant par là.
Oui, alors la manière dont l'ouvrage a été structuré, en fait, doit justement beaucoup aux récupérations qu'on peut observer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je fais un travail, effectivement, de veille. On m'envoie très régulièrement des liens vers des vidéos qui tendent à la manipulation du passé, aussi à jeter, il faut bien le dire, l'opprobre sur le travail des spécialistes qui maintenant sont, dans certaines sphères un petit peu complotistes, réduits au rang de personnalités qui cèdent au politiquement correct. Je fais une petite parenthèse, mais par exemple, j'ai écrit un chapitre sur nos ancêtres les Gaulois qui est relu par Emmanuel Arbab. Eh bien, j'ai vu un fil sur X assez récemment de personnes qui s'auto-revendiquent comme étant ethno-nationalistes, qui brandissent depuis des années le travail d'Emmanuel Arbab pour expliquer que il y a une continuité ethnique génétique parfaite entre l'âge de fer et puis les Français de l'époque contemporaine, et qui, ayant vu qu'Emmanuel Arbab a validé scientifiquement le texte, disent « Ah, il a cédé au politiquement correct, il s'est renié, il ne comprend plus lui-même la conclusion de ses propres travaux ». Voilà. Mais effectivement, ce travail de veille m'a conduit à brosser la structure de cet ouvrage. L'idée étant ici de proposer des outils civiques efficients qui ramène de la complexité, qui ramène de la densité, parce que bien sûr, toutes ces idées reçues sont fondées sur une part de réel. Invariablement, il y a quelque chose quand même qui est vrai, si on peut dire, dans la manière dont ces idées reçues évoquent le passé. C'est ce qui en fait d'ailleurs le succès, mais il faut ramener de la nuance et il faut expliquer aussi en quoi ces idées reçues sont caricaturales.
Et voilà, on ne sera pas étonné de retrouver Clovis, Charles Martel, Catherine de Médicis, évidemment Robespierre, évidemment Napoléon, et puis jusqu'au chapitre d'ailleurs que vous avez écrit, Laurent Joly, dans cet ouvrage, hein, France Fiction, sur Pétain a sauvé des Juifs, parce que...
Ça, c'était Jérémy
Guedj. Jérémy Guedj, effectivement. Qui a écrit ça. C'était lequel, vous, Laurent Joly, dans France Fiction?
Moi, c'était sur la... Est-ce que la collaboration était simplement de l'extrême droite?
Ah, ouais. Et alors?
Alors, vous imaginez pas le nombre de fois où on m'a dit dans des conférences, alors moi, je fais pas un travail de veille comme Yann, le nombre de fois on m'a dit, oh non, mais la collaboration, c'était la gauche. Pierre Laval, il venait de la gauche. Après, il faut expliquer que les gens, ils ont un parcours, que certes, ils ont commencé à gauche, mais qu'ils étaient déjà à droite avant Vichy, que donc ça n'a aucun sens de dire que Vichy ou la collaboration sont de gauche. Mais ça, c'est une idée reçue très ancrée. Et en fait, effectivement, c'est pas que l'extrême droite, mais c'est quand même, et ça, maintenant, il y a des travaux comme Tristan Rouquet qui le montrent, c'est d'abord et avant tout les réseaux de l'extrême droite. Et on le voit aussi dans notre livre, Anne-Sophie Anglaret montre bien que Vichy, c'est les structures de l'extrême droite et de la droite d'avant-guerre. Enfin, voilà, c'est... Mais il faut démontrer ça, parce qu'effectivement, il y a tellement d'idées reçues qui pullulent que maintenant, il faut bien le démontrer et ça suffit pas juste de le dire.
Yann Bouvier, d'ailleurs, face à la force d'une image, nous savons combien le discours nécessite de la force pour pouvoir s'imposer. Quand on a cette image qui circule énormément sur les réseaux sociaux d'avoir une photo du gouvernement Laval la voyez, cette image-là, avec toutes les...
40, ouais, mais 40. C'est Yann qui me l'a fait découvrir. Je sais raconter, ouais. C'est hallucinant.
Oui, mais c'est une vidéo, enfin, une photographie, un montage photographique qui a beaucoup de succès sur notamment X, qui tourne avec donc cette photographie du premier gouvernement Laval et chaque membre du gouvernement est étiqueté soit syndicaliste CGT, soit de gauche, etc. On invente par exemple, je ne sais plus quel est le syndicat, c'est Alibert, je crois.
Alibert qui est le royaliste, qui est l'un des l'âme damnée de Pétain, qui est l'homme qui a fait le coup, devient un syndicaliste CGT. Cette photo, on la publie justement dans le bouquin sur Vichy, en montrant bien le CV de tous ces gens-là. En fait, le gouvernement du 12 juillet 40, en fait, c'est l'union des droites. C'est vraiment l'union des droites. Et ça devient la gauche au pouvoir sur les réseaux sociaux.
Il y a un néo-socialiste, je crois, mais c'est l'exception.
Qui est considéré comme un fasciste, en fait.
Bien sûr.
Donc voilà, il y a un néo-socialiste, Adrien Marquet, et tous les autres, c'est du centre-droit jusqu'à l'extrême-droite royaliste.
Bénédicte Lachaignon, vous le vivez, vous aussi, en tant qu'historienne de cette période, d'avoir, lors des conférences ou des retours de vos ouvrages, cette discussion-là qui s'appuie sur ces discours assez rances.
Alors, bizarrement, moi je suis très candide, hein, donc quand j'ai publié la biographie de Pétain, je me suis dit, peut-être que quand même les gens vont me faire des remarques. Pas tellement, parce que c'est plutôt la curiosité, bien sûr. Il y a toujours le dingo de service qui pense que Pétain était très catholique ou Dieu sait quoi, voilà.
Je le connais, ouais, je l'ai rencontré.
après, ce qui est presque accablant, et donc vraiment toute mon admiration à l'équipe des correcteurs repreneurs, c'est le fait de... C'est ce que vit Laurent aussi, de devoir tellement de fois répondre à « non, Pétain n'a pas sauvé les Juifs de France ». C'est-à-dire qu'on est partagé entre la nécessité civique et scientifique de le dire et de le redire, et l'accablement de « je l'ai tellement dit, est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Est-ce que je parle ?» aux gens qui ne veulent pas m'entendre ou juste aux gens qui veulent m'entendre.
Et c'est la grande difficulté, hein, toujours. Mais nous avons cela en plus avec cette période-là, que c'est lié à des parcours individuels. Raphaël Spina, on parlait du STO dans les familles. Il y a une narration de cette histoire-là. Et puis après, il y a ce que viennent dire les historiens, les historiennes. Et puis, il y a tout ce que nous évoquons là, cette propagande délirante de l'extrême droite avec une force que l'on a rarement connue, hein, qui profite des réseaux. Faut demeurer serein, en fait. C'est simplement faire son boulot d'historien.
Oui, je ne prétends pas d'ailleurs toujours arriver à demeurer serein quand j'interviens sur les réseaux sociaux pour corriger au stylo rouge un certain nombre d'imbécilités que j'y vois circuler. Mais j'assume. Et effectivement, l'histoire a été inventée pour détruire les mythologies. Nous sommes des empêcheurs de tourner en rond. Et quelle que soit d'ailleurs la mythologie, il y a aussi des idées reçues qui ont circulé, diabolisant si besoin en était le régime de Vichy, alors que le dossier était suffisamment accablant sans en rajouter. Par exemple, Laurent Joly et d'autres montrent bien, il n'y a pas eu de complot de Pétain pour provoquer la défaite et la chute de la République. C'était pas nécessaire. Mais effectivement, on trouve des idioties du genre le régime de Vichy était un régime de gauche. Dans 20 ans, j'ose pas imaginer, il faudra démontrer que Bruno Retailleau n'était pas trotskiste. Mais au point où on en est, je m'étonne plus de rien. Et de la même manière, je suis obligé d'expliquer à chaque fois, non, le STO ne commence pas en février 1943, il y a une première loi encore plus importante le 4 septembre 1942. Donc Georges Marchais, qui part en octobre 1942, n'est pas un volontaire, encore moins un collabo, il a juste pas eu de chance, c'est tout. Il a été requis dans les premiers, ainsi de suite. Et de manière plus générale, il ne faut jamais laisser une propagande sans réponse, parce qu'elle s'infiltre dans les esprits et elle devient indéracinable. Et il faut des ouvrages bien précis, bien rigoureux, bien stricts, parce que sinon, il est très facile de se faire manipuler, même pour des amateurs chevronnés, et de ne pas avoir les munitions pour répondre à un certain nombre d'affirmations, au mieux approximatives, au pire parfaitement manipulatrices.
Sandrine Lemaire, en étudiant la décolonisation et dans l'ouvrage dirigé par Yann Bouvier, Science Fiction, parce que nous on a dit friction aussi, mais ça marche bien, friction et fiction, vous montrez comment cette décolonisation présentée comme pacifique dans le cas de la France ne l'est pas. Et là aussi, c'est pas tant nous dire si elle est pacifique ou pas, c'est voir comment aujourd'hui il y a la volonté de dire qu'elle est pacifique. Et est-ce qu'on vous reproche à vous de dire, mais oh là là, vous êtes encore en train d'abîmer l'image de la France, mais faut arrêter.
Oh là là, tous les jours. effectivement, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est presque des espèces en voie de disparition, nous tous ici, derrière le micro, aussi bien vous, Xavier Mauduit, en tant que journaliste et personne qui vulgarisait la science, et puis nous, en tant qu'historiens qui amenons des nuances. Pourquoi ? Parce que ce que disait Yann sur le travestissement des images, c'est extrêmement dangereux, et on le constate, puisque je suis historienne de l'image et de la colonisation et des décolonisations, aujourd'hui l'IA produit des images où, pour avoir été confrontée à ce type d'image, moi-même j'ai été bouleversée, c'est-à-dire que j'ai dû vraiment regarder le détail des armes qui ne correspondaient pas à l'époque pour constater que c'était de fausses images produites par l'IA. D'où le danger, je pense qu'à terme, et Yann le disait, cette IA devient de plus en plus performante. À terme, il sera compliqué pour un historien de trouver ce qui relève de la vraie source, d'une fausse source, entre guillemets, une source produite. Et pour revenir à votre question sur les décolonisations, en réalité, la France, elle a produit un discours qui émane, qui a des racines dans la production propagandiste coloniale en amont, ce que traite Vincent Joly dans l'ouvrage France Fiction, qui relève de l'idée que il faut absolument concentrer l'attention sur des épisodes traumatiques pour pouvoir présenter la décolonisation comme quelque chose de plus pacifique ailleurs. Pourquoi ? Parce que pendant toute la période coloniale, on a présenté cette image de la colonisation comme étant souhaitée par les colonisés eux-mêmes, puisqu'on leur apportait civilisation et progrès. Donc comment faire au moment de la décolonisation pour expliquer qu'il y a des gens qui se révoltent contre ? Alors comment on fait ? On se concentre sur un épisode traumatique que tout le monde connaît bien ici, qui est la guerre d'Algérie. Et à contrario, et c'est clairement stipulé d'ailleurs dans les instructions officielles, parce que de l'éducation nationale, il y a longtemps, hein, c'était dans les années 90, enfin quand je dis longtemps, 95, 99, c'est un cheminement pour construire aussi des idées reçues et une fiction de la France, partant de Clovis aux décolonisations, il y en a bien d'autres, où on explique que finalement, de l'autre côté, on a des indépendances négociées, pacifiques, progressives. Or, en réalité, ce que j'essaye de montrer dans le petit chapitre de France Fiction, c'est que l'Afrique subsaharienne française, elle a subi alors pas au même niveau, parce qu'évidemment c'était des armées de métier, que c'était les tirailleurs sénégalais, et là aussi on a tirailleurs sénégalais au sens générique du terme, que des colonisés faisant partie de l'armée française dans les tirailleurs sénégalais, aient pu réprimer d'autres colonisés. Là aussi, c'est quelque chose qui est inacceptable pour une partie des gens et qui rentre dans cette nuance. Et donc, cette idée que au Cameroun, par exemple, Madagascar, on le sait, aujourd'hui, il y a des commissions qui ont travaillé dessus, ça a été extrêmement violent. Ce qu'on sait moins, et ce que j'essaye de démontrer, c'est que ça a été également le cas en Côte d'Ivoire, en Guinée, et que finalement, c'était systémique. Que c'est une violence systémique.
Alors pour que ce soit clair, dans votre ouvrage, l'ouvrage que vous avez dirigé, Yann Bouvier, France Fiction, il y a un chapitre écrit par Laurent Joly, la collaboration n'était que l'affaire de l'extrême droite, et un chapitre par Vincent Joly, la colonisation a d'abord profité aux colonisés. En plus, vous les avez mis côte à côte.
Oui,
c'est pas joli, joli.
Excellent, très drôle. Oui, effectivement. Je ne sais même pas comment on en est arrivé à les mettre conjointement, mais le livre est structuré de manière thématique. Et d'ailleurs, ce que Sandrine Lemaire vient de relever me semble quand même très important. L'objectif du livre, c'est pas simplement d'exposer en quoi les idées reçues qui sont traitées ici sont fausses, c'est de les réépingler à leur chronologie, c'est de les historiciser, c'est d'expliquer quand ces discours sont nés, dans quel contexte, au service de quels intérêts, quels enjeux ils ont poursuivis, et puis ensuite quels acteurs les ont remodelés pour qu'ils parviennent jusqu'à nous, puisque certaines des idées reçues traitées dans l'ouvrage ont émergé il y a fort longtemps.
Oui, parce que dans la structure de votre ouvrage, France Fiction, ce sont les mythes fondateurs, les légendes noires, les légendes dorées, faire peuple et les fractures ouvertes. Le terme est bien choisi parce que ce sont vraiment des fractures ouvertes. Laurent Joly, nous évoquions tout à l'heure les échos contemporains à cet ouvrage que vous avez dirigé, Vichy, Histoire d'une dictature. Nous l'avons dit, simplement l'évocation même de Vichy dans le discours politique, dans l'actualité. Et puis l'ouvrage va au-delà de Vichy au sens où c'est une réflexion sur déjà qu'est-ce qu'une dictature ? Comment une dictature se met en place, et les échos contemporains sont très forts. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde extrêmement étrange et malaisant.
Oui, tout à fait. Alors, plus qu'une réflexion sur comment une dictature s'installe, ce qui nous parle aujourd'hui, c'est comment une démocratie s'effondre. Parce qu'une démocratie, elle peut s'effriter aussi, et ça, on va pas forcément à une dictature. Pour qu'il y ait dictature, ce qui s'est passé en 40, c'est tellement singulier, c'est tellement exceptionnel lié à la défaite de 1940 que ça ne peut pas se reproduire. Donc si jamais le RN arrivait au pouvoir, il n'y aurait pas comme ça du jour au lendemain une dictature. Il y aurait autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il faut penser à partir des armes qu'on a. Et ce qu'on observe dans l'histoire, c'est que en fait les ressorts des êtres humains, ils sont pas tellement changés. C'est ça qui est troublant quand on étudie les années 30-40. C'est qu'on voit les mêmes peurs, on voit la même manière de construire des boucs émissaires, cette haine de la gauche qui est quand même assez structurant, et cette diabolisation de la gauche à droite et à extrême droite, ce qui fait qu'on est prêt à faire des alliances qui sont parfois honteuses en se donnant de bonnes raisons. Et donc, on voit des configurations, vous avez des opportunistes, des doctrinaires qui s'allient. Et aujourd'hui, des opportunistes cyniques et des doctrinaires illuminés, cette alliance-là, on la voit dans plein de pays. C'est cette alliance qui est à la base de Vichy. Donc, il ne s'agit pas de faire des analogies, mais de comprendre que voilà qu'il y a des ressorts qui peuvent et ce renouveau du nationalisme qui est là et qui a été un peu congelé, discrédité dans nos sociétés pendant presque 80 ans et aujourd'hui qui reviennent.
Merci beaucoup Laurent Joly, parce que nous voyons bien avec tous ces ouvrages, que ce soit Vichy, Histoire d'une dictature, que ce soit France Fiction, Histoire des idées reçues de l'histoire de France, combien il y a une demande de réponse. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes juste ici les porte-voix, au sens où nous laissons la parole, mais la demande, elle est immense derrière, et l'urgence, elle n'est pas que dans le champ historique. Nous le voyons bien que ce sont des enjeux aussi politiques. Donc merci vivement à vous, 1, 2, 3, 4, 5, d'être venus dans le cours de l'histoire pour nous parler de ces ouvrages. Merci vivement à eux. Merci beaucoup. En public, en direct, des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et un petit clin d'œil pour vous, terminé, pour vous, Sandrine Lemaire, pour cette histoire de France Fiction faite tant de clichés autour notamment de la colonisation, avec parfois beaucoup d'humour. Henri Salvador.
Nos ancêtres were les Gaulois, ou le dos d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois. Pour
faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler et rester toujours vigilant. Voici maintenant le fil histoire, une chronique à retrouver chaque semaine dans le cours de l'histoire et en vous abonnant au podcast Le Fil Culture G sur les réseaux sociaux. Ce sont des décryptages en économie, en sciences, en philosophie. C'est à retrouver aussi sur les réseaux sociaux de France Culture. Et aujourd'hui, dans le fil histoire, le médiéviste Emanuele Arioli nous offre une histoire au poil.
Alors, garder ses poils ou s'épiler ? Qu'en dites-vous ? Le poil est devenu un sujet de débat. Les luttes féministes s'en emparent, ce n'est plus intime, c'est politique. Et cette question remonte au Moyen-Âge et même bien avant. Dès l'Antiquité, Ovide, dans son art d'aimer, s'adresse aux femmes. Un bouc farouche ne doit pas loger sous vos aisselles et vos jambes ne doivent pas être hérissées de poils rudes. Le corps féminin est attendu lisse. Bref, on surveillait déjà le maillot. Le Moyen-Âge prolonge ce diktat. On a gardé des traités de santé et de beauté qui détaillent toutes les méthodes d'épilation. Comme le régime du corps d'Aldebrandin de Sienne au XIIIe siècle ou la chirurgie de maître Henri de Mondeville au XIVe. Et que conseillait-il ? Les ciseaux, le rasoir, la pince et de la poix induite sur les doigts ou sur un tissu. Les ancêtres de nos bandes de cire, mais aussi des sortes de crèmes dépilatoires à base de chaux vive ou d'arsenic. Et déjà, c'était de la torture. Et pour calmer les brûlures, blanc d'œuf ou graisse de porc sans sel. Pour empêcher la repousse, plus étonnant, du sang de grenouille, de tortue et de chauve-souris. Je vous déconseille d'essayer à la maison. Mais le plus frappant, c'est la justification donnée à ce diktat. Certes, on évoque parfois l'hygiène, contre les parasites, mais Henri de Mondeville explique que les femmes s'enlèvent elles-mêmes leurs poils pour être agréables aux hommes. L'épilation peut cacher une domination masculine, comme le dénoncent aujourd'hui Mona Chollet et d'autres féministes. Une aliénation dans l'intime. Pourtant, le poil féminin échappe parfois à la norme. C'est le cas des femmes sauvages, ces créatures légendaires qu'on imaginait vivre dans les forêts, loin de la société. Elles sont marginalisées comme aussi les saintes retirées du monde. Marie-Madeleine, Marie l'Égyptienne, dont les cheveux recouvrent le corps comme un manteau. Et surtout, la plus étonnante, sainte Vilgefort, qu'on appelle aussi sainte Livrade, littéralement la Vierge Forte ou la sainte Libérée. L'histoire raconte qu'elle fut promise un mariage contre son gré. Et pour échapper à son promis, ou à des soldats ivres, ou à même un père incestueux, selon les versions, elle prie Dieu de la rendre laide. Et Dieu lui fait pousser une barbe digne du Père Noël. Les hommes s'enfuient et son père furieux la fait crucifier, un supplice réservé aux hommes. Son culte se diffuse au XIVe siècle dans toute l'Europe. On la peint, on la sculpte dans le nord de l'Europe, en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, toujours crucifiée et toujours avec une barbe. Le poil était déjà un acte de résistance. Et aujourd'hui, des artistes, des actrices, des activistes, des influenceuses partagent leurs poils sur les réseaux pour combattre les diktats sur le corps féminin. Hier, les fresques des églises, aujourd'hui, Instagram ou TikTok. Mais le message est le même, le poil est un choix, une liberté. Et sainte Vilgefort, la sainte libérée, l'avait compris avant tout le monde. Ce n'était pas forcément une bonne idée de se tartiner de chaux vive ou de sang de grenouille ou de chauve-souris.
C'est le cours de l'histoire sur France Culture en public et en direct des Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Le cours de l'Histoire, une émission réalisée par Laurence Millet avec, et merci beaucoup aux équipes de Radio France, Benjamin Troncin, Alexandre James, Hervé Rio, Franck Malabry, Félix Delacour. Une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copès, Solène Roy et Mayouen Guizou. Le cours de l'Histoire est une émission à retrouver, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.